9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Rémi Koffer, je suis ravi de vous revoir. Vous êtes un spécialiste des histoires d'espionnage et vous consacrez un gros livre aux 5 de Cambridge, la plus grosse affaire d'espionnage du XXe siècle, hein, 5 taupes soviétiques au cœur des services secrets de Sa Majesté. Votre livre s'intitule « Les espions de Cambridge ». Ça commence dans les années 30, à une époque où, au fond, il n'y a que les Russes et les Anglais qui prennent l'espionnage, les services secrets, au sérieux. Les Français, pour nous, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, Matahari, c'est n'importe quoi. Les Allemands ne connaissent pas tellement. Les Américains n'ont même pas de service secret jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a que les Russes et les Anglais qui prennent ça vraiment au sérieux.
Les Soviétiques plus que les Anglais, parce que les Anglais, comme nous, après la Première Guerre mondiale, ont un peu épuré leur service secret parce qu'ils avaient trop de personnel. Alors que les Soviétiques misent à fond là-dessus. À partir du moment où ils voient une possibilité d'entrer dans la haute société anglaise, bah, ils vont l'exploiter.
C'est une idée russe au départ, hein, les 5 de Cambridge.
Oui, c'est une idée de Maxim Litvinov, qui est l'ancien ambassadeur de l'Union soviétique à Londres et qui est devenu ministre des Affaires étrangères. Et Litvinov, qui est juif, sera écarté au moment du pacte germano-soviétique au profit de Molotov.
Et il a l'idée, effectivement, de recruter des jeunes gens de la bonne société, appelés donc à gravir les échelons de la société britannique, et de les recruter pour en faire des taupes, des espions, des gens qui vont, comme ça, attendre qu'on les réveille. C'est comme ça que nous voyons les taupes, et c'est pour ça qu'on les appelle des taupes. Alors, pourquoi ces 5-là? Qu'est-ce qu'ils ont, tous les 5, qui va les faire basculer?
Pour beaucoup, pour 4 sur 5, je dirais, il y a la force de l'idéologie. C'est-à-dire que le communisme apparaît la solution à tous les problèmes à l'époque. Ils sont très minoritaires, les éléments qui ont de la sympathie pour le communisme sont très minoritaires à Cambridge, mais enfin, ils sont assez soudés, ils se réunissent, etc. Et puis, le cinquième, Anthony Blunt, c'est pour des raisons plutôt esthétiques, c'est-à-dire que c'est un spécialiste de la peinture, en particulier pour chez nous de Nicolas Poussin, grand spécialiste mondial de Nicolas Poussin. Et Blunt pense qu'il n'y a que dans une société socialiste qu'on pourra faire à l'art le même traitement qu'il y a eu en Italie sous la Renaissance.
Blunt qui finira quand même conservateur des collections royales de la reine Elisabeth II à Buckingham Palace.
Hein. Tout à fait. Pour un ancien agent soviétique est quand même un problème.
Ou une réussite, ça dépend de quel point de vue on se prend. Alors il s'appelle Kim Philby, Guy Burgess, Donald MacLean, Anthony Blunt et John Cairncross. On a souvent dit qu'ils étaient tous homosexuels. Non, il y en a deux qui sont homosexuels.
Non, il y en a deux qui sont homosexuels.
Guy Burgess.
Voilà, Burgess, qui est une espèce d'homosexuel qui saute sur tout ce qui bouge. C'est un personnage extraordinaire. À un moment dans le bouquin, je dis que c'est une gay pride à lui tout seul. Et qui a la particularité de rester fidèle à ses anciens amants. Il reste copain avec ses anciens amants, dont Anthony Blunt, qui effectivement, alors, ils ont une liaison assez courte, mais il reste très proche et Blunt se sentira, alors qu'il ne se sent aucune fidélité envers la Grande-Bretagne, il se sent une fidélité envers Burgess qui protégera.
Ils se connaissent tous les 5 à Cambridge?
Ils se connaissent, mais il y en a un qui est un peu à l'écart, c'est John Cairncross.
Le cinquième, le dernier qu'on découvrira.
Le cinquième, et pas le moins efficace. Mais celui-là, c'est un Écossais, il est considéré un peu comme un plouc par les autres, en particulier Blunt. Blunt le balancera d'ailleurs pour sauver sa peau au service anglais.
Ils vont faire tous les 5 de très très belles carrières, hein. Ils étaient appelés de toute façon à réussir, mais tous vont réussir à un moment ou à un autre à infiltrer les services secrets britanniques et au moment où commence la Seconde Guerre mondiale, ils sont tous en place.
L'idée c'est que la classe dirigeante anglaise a été une des plus restreintes numériquement au monde. Donc si vous en faites partie, eh ben, vous allez forcément avoir accès à des hauts postes, c'est ce qui va arriver. Des postes dans les services secrets ou au Foreign Office, dans le cas de MacLean.
C'était un très bon calcul de la part des Soviétiques et il a parfaitement réussi. Hein. Aucun d'entre eux, d'ailleurs, ne va se mettre à table.
Non, et d'ailleurs, ils mourront tous dans leur lit, tranquilles.
Le problème, quand on est anglais, recruté par les Soviétiques et censé espionner la Grande-Bretagne, c'est que les Soviétiques ont tendance à penser que vous pouvez mener double jeu. Ça a été leur problème, hein, à eux aussi.
Ça a été leur problème. Étant donné que le système léniniste stalinien est par définition un système complètement paranoïaque, donc il y avait un mythe très fort de l'intelligence service qui est omniprésent, qui est bon, et du fait qu'ils arrivent à des postes de responsabilité dans les services secrets, pour les Soviétiques, pendant longtemps, ça sera de la méfiance. C'est sans doute un coup des Anglais. Sauf que comme ils vont apporter quand même beaucoup de choses, on va finir par se dire, en tout cas, si c'est des agents anglais, ils nous en donnent plus qu'on pouvait espérer. Donc ils sont très contents finalement.
On fait une pause, Rémi Kofer, et puis vous allez nous dire tout ce qu'ils ont livré, les 5 de Cambridge, et ça fait un paquet. Hein.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Rémi Kofer est avec nous ce matin. Il publie Les espions de Cambridge, 5 taupes soviétiques au cœur des services secrets de Sa Majesté chez Perrin. C'est l'histoire de Burgess et Maclean, de Kim Philby, de Anthony Blunt et de John Cairncross. Les 5 de Cambridge, ce sont eux. Alors, quels secrets ont-ils livrés ?
Des choses très importantes. Maclean et Cairncross apportent en Union soviétique la révélation du programme nucléaire anglo-américain, c'est-à-dire pour fabriquer la bombe atomique. Donc c'est une chose dont les soviétiques sont avertis très tôt, très en amont. Cairncross va apporter aux soviétiques d'énormes renseignements militaires avant ce qu'est le grand tournant de la Deuxième Guerre mondiale sur le front de l'Est, c'est-à-dire la bataille de Koursk. Il leur apporte
la grande bataille de chars.
Voilà, la plus grande bataille. La bataille qui va décider du sort de la guerre à l'Est.
Mais ce moment-là, les soviétiques sont nos alliés, enfin sont les alliés des Anglais.
C'est ce que dira Cairncross aussi. On peut toujours justifier qu'on a trahi son pays. Hein. C'est avec un peu de dialectique. C'était tous des marxistes, donc rompus à la dialectique. Mais ils n'apportent pas seulement ça. Ils apportent, dans le cas de Philby, des éléments très précis sur les tentatives après-guerre des Occidentaux de créer des maquis dans les pays de l'Est. Donc il apporte parce qu'il a réussi à rouler Jim Angleton, qui est le chef du contre-espionnage de la CIA et qui connaît Philby depuis la guerre et qui lui révèle énormément de choses, ce qui aura un effet d'ailleurs extraordinaire que je crois personne n'en l'a réalisé jusqu'à présent, c'est que pendant 30 ans, jusqu'au départ d'Angleton du contre-espionnage, c'est-à-dire en 1974, 30 ans après le recrutement du premier des 5 de Cambridge, eh bien, pendant des années, la CIA, qui était jeune, a été paralysée parce qu'il était devenu complètement parano. Il voyait des traîtres partout. Il n'avait pas vu le traître qui était sous ses yeux et il racontait, c'était grand ami, ils mangeaient ensemble, etc. Il racontait par le menu. Donc, il devient complètement parano. Il estime que tout soviétique qui veut passer aux Occidentaux est forcément une taupe soviétique. Donc,
les services anglais, d'ailleurs, ont beaucoup souffert de cette affaire. On ne les prenait plus du tout au sérieux. D'ailleurs, je me suis toujours demandé si la naissance de James Bond, 2 ans après la défection de Burgess et Maclean, ce n'était pas une manière de redorer un peu le blason des Anglais.
C'est peut-être curatif, oui, parce qu'effectivement, ils avaient l'air plus que nigauds. Et les Américains étaient furieux. Les Américains étaient furieux parce que les Anglais avaient couvert par une espèce d'esprit de caste. C'était tous des anciens de Cambridge. Ils font partie de l'establishment.
Et puis ils arrivent.
Donc on les protège.
Ils arrivent aux services secrets. Ils arrivent dans les ambassades, notamment à l'ambassade des États-Unis juste après la guerre. Il y en a un qui rentre carrément dans le bureau du ministre des Affaires étrangères. Il est là. Il travaille là. Ils sont dans les ambassades. Ils voient tout. Transmettent tout aux soviétiques.
Ils passent tout ce qu'ils peuvent aux soviétiques, à la différence qu'à cause à l'exception du fait que du système stalinien, et leur premier contrôleur, les gens qui les ont recrutés dans les années 30 et qui les traitaient en termes de métier, ont été rappelés à Moscou. Et l'un s'est pris une balle dans la nuque, car suspect. Donc il y a des moments où effectivement, ils ont des renseignements formidables, mais il faut que Guy Burgess passe à Paris, où il a des tas de copains homosexuels, etc., y compris dans l'entourage de Daladier, qui est président du Conseil, pour donner directement aux résidents soviétiques à Paris les renseignements, parce que les officiers traitants ont disparu. Ils ont des perles et puis ils ne savent pas les utiliser.
Les premiers qui sont soupçonnés, c'est Burgess et Maclean, mais Kim Philby est averti et il les prévient et ils vont pouvoir s'en aller.
Oui, tout à fait. Ils ont été repérés. Maclean a été repéré par les interceptions et les décryptages des messages radio échangés entre les représentations diplomatiques soviétiques aux États-Unis et Moscou. Et Philby est averti, effectivement. Il est l'officier de liaison entre la CIA et le MI6, c'est-à-dire le service secret anglais, à Washington.
Et c'est un espion soviétique.
Et c'est un espion soviétique, mais de toute façon, il a été responsable de la section contre-espionnage anti-soviétique au MI6. C'est-à-dire que vous avez celui qui est chargé de chercher, de repérer les taupes, et lui-même une taupe. Donc, une histoire à la Kafka.
Oui, c'est sûr. Philby lui-même va être soupçonné ensuite. Hein.
Ah bah, il est forcément soupçonné, parce que les deux ont filé en Union soviétique avec...
Un scandale énorme à l'époque. Hein, on est en 51, c'est en pleine guerre froide, c'est les premiers transfuges.
C'est tout à fait. Et puis, ils arrivent à traverser la France grâce, je le révèle dans ce bouquin, parce que même les Britanniques ignorent son identité, par un Français, ancien communiste, mis en sommeil et qu'on a réveillé pour les faire passer. Et ils passent effectivement à Moscou. Donc, comme ils passent tous les deux à Moscou et que Burgess a fait précédemment un scandale quand il était à Washington, parce que lui aussi était à Washington, Philby devient immédiatement suspect, sauf que Philby sera protégé par l'entre-soi de l'aristocratie britannique. On dira ce vieux Kim, il ne peut pas être coupable, etc. Donc on le débranche un peu, enfin on l'envoie au Liban avec une couverture de journaliste. Et là, au Liban, il est agent double, c'est-à-dire qu'il ne passe pas grand-chose aux Anglais, mais il a un officier traitant soviétique sur place. Et en 1963, quand ça va vraiment commencer à chauffer pour son matricule, eh bien, il est exfiltré depuis Beyrouth. Et là, nouveau scandale, parce que, en effet, les Américains sont encore plus furieux qu'avant.
Là, ça en fait trois. Hein. Les trois de Cambridge, à l'époque, voilà. On les appelait. On s'apercevra ensuite qu'il y en a un quatrième qui, à ce moment-là, loge à Buckingham Palace. C'est l'historien d'art très réputé Anthony Blount, conservateur des collections royales. Lui, on s'en aperçoit très tard. Et d'ailleurs, là aussi, on va étouffer l'affaire. Elle ne sera rendue publique que par Margaret Thatcher, une fois arrivé au pouvoir. Et puis le dernier, c'est John Cairncross, qui lui vit en France, tranquillement, et a bénéficié lui aussi d'une immunité.
Alors Cairncross, lui, il a effectivement vécu en France. Il parlait français couramment, il était même un spécialiste de Molière. Il est revenu en 95 en Angleterre, puisqu'il avait l'immunité de la couronne. Eh bien, il est revenu, il est mort quelques mois après. Il est mort en Angleterre dans son lit. Ils sont tous morts dans leur lit.
Alors, dernière anecdote qui est amusante. Kim Philby arrive donc à Moscou. Il retrouve ses amis Burgess et MacLean. Et il va coucher avec la femme de MacLean.
Il va coucher effectivement avec la femme de MacLean pour se débarrasser d'une autre.
Mais ça veut dire qu'il se fâche avec MacLean.
Bah évidemment. C'est pour se débarrasser d'une autre qui est américaine, parce que Philby est un personnage. Alors, on disait tout à l'heure, est-ce qu'ils étaient tous homosexuels? Ben, Philby était un homme à femme et même un exploiteur à femme. C'est-à-dire
et MacLean aussi.
Il s'en servait aussi. Oui, MacLean aussi, mais de manière quand même moins prononcée. Quoi. Bon, Philby se débarrasse de toutes les femmes de sa vie quand elles sont plus utiles. Il est quand même très cynique.
Ça pourrait faire une série formidable.
Je suis pas, j'essaie toujours de corriger.
Ça pourrait.
De corriger le.
Vous avez dû y penser, les films.
Oui, bien sûr.
Les espions de Cambridge, un gros livre, plus de 350 pages, hein, qui nous remet dans l'ordre toute cette histoire fascinante. C'est signé Rémy Koffer. Ça vient de paraître chez Perrin.